13 pile dans FM 93 ce midi. On parlait de fermeture de restaurants, d'offres en restauration. Avant la pause, quelques réactions. 25-226, Paul.
Ben, ça confirme un peu ce qu'on disait. Quelqu'un nous dit ce qui ouvre, c'est des petits restos de 20 places où c'est un couple qui fait le service, tu sais, puis la cuisine. Ben, c'est vrai, mais quand tu y penses, à part le fait que bon, t'as un moins gros volume d'assiettes que tu sers, donc tu fais une moins grosse marge de profit sur les aliments que t'achètes, mais il demeure que c'est moins risqué. Parce que, forcément, ça te prend une plus petite place. T'as pas besoin d'avoir un grand local qui te coûte une fortune. T'as pas besoin non plus d'avoir nécessairement comme 22 employés pour que ça roule.
Exact.
Là, quand tu tombes à 19, t'es dans le trouble. Puis tu vises 25. Là, t'es deux. Tu vas essayer d'engager une personne de plus pour venir te donner un coup de main.
Toujours.
Si tu perds ton employé, tu sais, c'est très personnel. Si tu perds ton employé, t'as besoin de trouver une personne pour la remplacer.
Mm-hmm.
Mais t'as pas tout le temps besoin de remplacer des 4-5. C'est pour ça que tantôt, on parlait du district Saint-Joseph. Toute l'équipe qui est partie, on lisait dans le journal ce matin que le chef du district et puis son staff, ils sont tous partis. Eux autres, là, le défi là, auquel ils font face, là, c'est pas juste on manque d'employés, il faut en trouver 2-3 de plus, là. Engager une équipe complète dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.
Bonne chance.
Je sais pas comment ils vont faire ça, là. À moins qu'ils aient vraiment des marges bénéficiaires incroyables, puis qu'il y ait de l'argent de côté, puis qu'ils soient capables de leur offrir la lune. Mais sans ça, je vois pas comment tu peux être capable de repartir une équipe complète d'un staff qui est quoi? Je sais pas, il devait avoir combien de personnes? C'est une douzaine d'employés qui
ont quitté l'équipe de la cuisine, complet, là.
Engager 12 personnes à Québec aujourd'hui. Il y a bien des restaurateurs qui nous écoutent peut-être en ce moment qui se tapent la tête des murs juste à y penser.
Je sais pas s'ils sont capables de leur offrir la lune, mais du côté de la Chine, on est en train de le faire. Par contre, on envoie un engin sur la face cachée. Tu as vu passer ça? Il a envoyé un robot pour la première fois sur la face cachée de la lune.
Oui, j'ai vu ça.
Moi, d'abord, la face cachée de la lune, puis d'abord, notre invité va pouvoir nous en parler.
Pour moi, la face cachée de la lune, c'est un album de Pink Floyd. Là.
Ouais, Dark Side of the Moon.
Bah, t'as dit
c'est
ça. Tout de suite, là.
Mais pour moi, la face cachée de la lune, il y a vraiment une face qu'on voit jamais de la lune. C'est tout le temps la même face qu'on voit partout dans le monde. Là, tu vois,
ça tourne pas, cette affaire-là.
C'est ça, exactement. On va aller le demander à quelqu'un qui en sait pas mal plus que nous autres là-dessus. Il est spécialiste en mission spatiale. Il s'appelle Benoît Laplante. Bonjour, monsieur Laplante.
Bonjour, messieurs. Première des choses, là, vous vous trompez, là. On disait pas le disque de Pink Floyd, c'est Dark Side, donc c'était le côté sombre de la lune. Ah,
c'est ça.
Ben oui. Parce que le côté sombre est pas vraiment sombre. Le côté caché a le même nombre d'heures d'ensoleillement que le côté qu'on voit de notre côté de la Terre, là. Donc c'est ça qu'on l'appelle le côté caché et non le côté sombre.
OK.
Mais ça aurait été un meilleur disque. Je sais pas si ça aurait été un aussi bon succès, là. The Far Side of the Moon, je sais pas si ça aurait été
un bon disque.
The Hidden Side of the Moon. C'est moins bon un petit peu.
Mais vous avez raison, on voit toujours le même côté de la Lune, parce que la Lune fait une rotation autour de la Terre en à peu près 28 jours, et elle fait une rotation autour d'elle en environ 28 jours aussi. Donc, avec les quartiers de la Lune, on voit toujours les mêmes parties, parce que quand elle tourne, on voit les côtés qu'on pourrait voir si le Soleil serait tout le temps là, ça serait plus loin, mais on peut pas le voir justement à cause de ça. Okay. Donc, on appelle ça une rotation qui est synchronisée, donc c'est... On n'a pas la chance d'avoir l'autre côté.
Donc, partout dans le monde, ils voient tout le temps le même côté de la Lune, le même...
Exactement. C'est la même chose. Et puis, les quartiers de la Lune, ça se fait en fonction de la position de la Lune vis-à-vis de la Terre et du Soleil. Donc, c'est le côté éclairé de la Lune, parce que c'est la Terre qui fait de l'ombrage sur la Lune, qui nous montre certains quartiers. Et puis, en fonction de la distance, partout sur la Terre, on voit exactement toujours la même chose.
Qu'est-ce qu'on connaît, cette face-là de la Lune?
Ben, ce qu'on connaît, c'est on n'est pas la première fois qu'on y va à survoler, parce que les astronautes des missions Apollo ont survolé le côté obscur de la Lune. On a envoyé des sondes aussi qui ont fait la même chose, mais c'est la première fois qu'on y atterrit. Et ce qui est vraiment particulier de ce côté-là, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de signal radio qui s'y rend, donc on a été obligé de mettre en orbite un satellite beaucoup plus loin pour faire le relais des informations. Et puis ce qu'on sait de ce côté-là, c'est qu'il est beaucoup plus accidenté. On pense qu'il y a beaucoup plus d'anciennes coulées de lave. On retarde de millions d'années, au moins centaines de millions d'années. Là. Okay. Et puis où on a atterri principalement, c'est dans un gros cratère. Et puis on espère être capable de pouvoir toucher au manteau de la Lune, là, vraiment le sol de la Lune, parce que sur le côté, quand on atterrit normalement, il y a toujours une couche de poussière, puis il y a plein de choses par-dessus qui nous empêchent de toucher vraiment au sol rocheux. Mais dans ce cratère-là, vu que c'est un qui est quand même des plus récents, on parle encore là une fois de millions d'années, là, même si en côté astronomique, c'est quand même récent, là, donc on pense avoir la chance de faire vraiment une bonne imagerie du sol lunaire, et de savoir un peu c'est quoi les couches qui sont en dessous de ça, et puis savoir un peu c'est quoi les composantes qu'on a là, donc ça va être intéressant ce côté-là aussi.
À quoi ça va servir concrètement d'en apprendre plus plus sur la composition du
manteau. Ça va nous aider à comprendre un peu l'origine de la Lune. Est-ce que c'est une portion de la Terre qui s'est séparée? Est-ce que c'est deux planètes qui ont eu une collision? Est-ce que j'ai plein de théories là-dessus? Donc, c'est important pour nous de le savoir. C'est important de savoir aussi si jamais on veut y établir des bases, qu'est-ce qu'il y a autour de nous, comment on doit s'installer pour que ça soit fixe, qu'est-ce qu'on peut en retirer du sol aussi pour générer certains produits. Donc, il y a tout ça aussi qui est important. Et ce qu'on veut faire aussi de l'autre côté, en étant du côté opposé pendant certains moments, on veut se servir justement du bouclier de la Lune pour faire l'astronomie par onde radio à basse fréquence. Donc, on n'a pas vraiment les interférences de la Terre qui nous bombardent. Donc, on va être capable de faire de l'observation astronomique un peu à partir de là aussi. Donc, ça va être plein de choses de science là, qui est là. Mais je pense qu'il y avait aussi, je vous dirais, 50% science, 50% le fait de dire qu'on est les premiers à atterrir quelque chose sur ce côté-là. Il y a un peu les deux là-dessus.
Parce qu'il y a un auditeur par texto qui nous pose la question à 100$. Il nous demande... Le but des Chinois, c'est-tu de faire une base secrète du côté obscur de la Lune pour dominer le monde?
Bon, je vous dirais que si vous voulez dominer le monde, vous êtes mieux resté sur la planète Terre que d'aller sur la Lune, là. Mais non, c'est une bonne question. C'est une très bonne question à savoir est-ce que les Chinois pensent envoyer pas plus tard que plus tard cette année, une autre mission qui va s'appeler Shenzhi 5. Celui-là, c'était le 4. Le 5 va envoyer une sonde, encore une fois, sur la Lune avec un petit robot qui se promène comme on a présentement là. Mais on veut prendre un échantillon et la ramener sur Terre. Vous savez, il y a quand même beaucoup d'échantillons, mais il y en a très peu d'échantillons de la Lune qui sont arrivés avec les 6 missions qui ont atterri sur la Lune. Donc, les Chinois veulent aller mettre le pied là. Et par la suite, comme les Chinois, comme les Américains, comme les Russes, on espère aller établir une base permanente d'ici 20-25 ans environ. Donc, éventuellement, oui, il y a un peu le but aussi de savoir comment on va pouvoir y vivre, parce qu'on va avoir, à bord de la petite sonde, on a aussi un instrument qui va déterminer le nombre de neutrons qu'un astronaute pourrait être soumis en étant sur la Lune, parce que vous n'avez pas d'atmosphère, vous n'avez pas vraiment de bouclier, de champ magnétique comme on a sur Terre qui vous protège. Donc, il y a toutes ces choses-là qu'on veut identifier en même temps.
Les températures doivent être épouvantables là-bas aussi, j'imagine.
Vous passez d'un côté ou de l'autre, là, vous passez d'environ moins 200 degrés à plus 200 degrés, tout dépendant si vous êtes au soleil ou à l'ombre. Donc, c'est amener votre crème solaire là, quand il fait soleil. C'est assez fort, merci. Ouais. Mais donc, les variations, donc pour le côté équipement et matériaux, les changements dimensionnels, les torsions thermiques sont incroyables. Donc, on doit faire exactement aussi des études à savoir comment on peut développer des produits qui vont vraiment résister à ces changements thermiques-là.
Vous nous parliez d'établir éventuellement une base permanente sur la Lune. Est-ce que tel l'aéroport de Montréal pour les gens de Québec qui s'en vont une semaine à Cuba dans le sud, cette base permanente-là sur la Lune pourrait nous rapprocher d'un éventuel voyage sur Mars?
Absolument. On parle première étape, ça va être de mettre en orbite un genre de station spatiale autour de la Lune. Par la suite, on veut mettre une base sur la Lune. Et comme la Lune a une gravité d'un sixième de la gravité de la Terre, donc ça prend un sixième de fois pour envoyer quelque chose en orbite. Donc, vous avez beaucoup moins besoin de carburant ou de propulsion pour aller vers d'autres planètes ou d'autres astres. C'est une bonne idée de s'en aller sur la Lune. Et puis, par la suite, une fois qu'on s'est acclimaté un peu avec le moins de gravité, le corps est habitué un peu. Par la suite, là, on peut partir vers Mars avec beaucoup moins de puissance et beaucoup moins de poussée. Donc, c'est vraiment un pied à terre pour être capable d'aller ailleurs par la suite. Là.
Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les Américains redoublent de cadence suite à ces missions-là de la Chine?
C'est une très bonne question parce que, vous savez, si on se rappelle, moi je me rappelle les années 60-70 quand j'étais jeune, puis on voyait les missions Apollo, puis si on a marché sur la Lune en si peu de temps, c'est parce qu'il y avait vraiment une course entre les deux puissances, les Soviétiques, les Américains, et puis il s'agirait juste que les Chinois ou les Russes disent, en telle année, on va mettre une base où on va aller réatterrir sur la Lune, et vous allez voir les autres là, qui vont embarquer dans la course, donc ça va être la même chose. On parle beaucoup, moi j'aimerais vraiment voir les trois travailler ensemble, ou tous les pays du monde, y compris le Canada, j'aimerais qu'on embarque là-dedans, là, à travailler ensemble pour vraiment développer quelque chose, mais des fois, c'est quand il y a de la compétition que le développement se fait plus vite, donc il y a des deux côtés un peu là-dedans aussi. Là.
On est à combien d'années, je sais pas si ça se quantifie, là, mais on est à combien d'années de cette possibilité d'une base lunaire?
Je vous dirais qu'on n'est pas, c'est pas demain la veille. Là. Je vais vous donner juste des chiffres comme ça. Là. Aujourd'hui, la seule façon qu'on peut aller en orbite, c'est la Station spatiale internationale. Il y a juste les Russes qui font ça avec leur fusée Soyouz, et on parle d'une distance de 400 km. On va regarder maintenant la Lune. La Lune est à 363 000 kilomètres. C'est pas mal plus loin, là. Donc, de passer de 400 à 363 000, on a beaucoup de travail à faire pour avoir un bon lanceur qui va nous amener avec des astronautes là-bas, les ramener. C'est sûr qu'on peut ressortir les plans du programme Apollo et puis les mettre à jour, mais je vous dirais qu'il y a le côté budget, il y a le côté gouvernement aussi. Aux États-Unis, je suis pas certain qu'il y a quelqu'un qui est là qui peut prendre une décision puis qui va garder la même jusqu'à demain là, pour aller sur la Lune, là. Même s'il est souvent l'air d'être dans la Lune lui-même, mais ça, ça va être là, la décision du gouvernement de dire on va de l'avant. Et tout dépendant du montant qu'on va mettre là-dedans, il y a énormément de pressions qui vont être mises à gauche, pas à droite, par des gens qui vont dire mettez donc de l'argent pour les sans-abri, l'éducation, des choses comme ça qui font du sens aussi. Mais moi, je crois toujours que mettre l'argent là-dedans, c'est aider à développer la technologie, aider la qualité de la vie sur Terre, et puis ça développe un peu, ça stimule nos jeunes aussi. C'est important, ça aussi.
Mais l'amélioration des technologies, parce que c'est ça, on est allé à la fin des années 60 sur la Lune, ça fait pas en sorte que ça coûterait moins cher, ça serait plus facile que dans le temps?
Ben, je vous dirais que du côté de technologie, du côté de propulsion, on n'a pas vraiment changé grand-chose. Regardez les fusées Apollo, on partait avec du kérosène, d'hydrogène liquide, d'oxygène liquide. Aujourd'hui, on part avec du kérosène, d'hydrogène liquide, d'oxygène liquide. Donc, on n'a pas vraiment développé là-dessus. Les navettes spatiales utilisaient la même chose. Les fusées solides, c'était de l'aluminium en poudre avec un oxydant, et de l'hydrogène, d'oxygène liquide. On n'a pas vraiment développé grand-chose. On a des chercheurs qui trouvent à avoir des moteurs à propulsion par ion ou par plein de choses, mais on n'est pas encore rendu là. Donc, du côté propulsion, c'est encore là qu'est le problème. Technologie, oui, on a avancé, mais les coûts ont augmenté de façon exponentielle aussi. Donc, je pense que le programme Apollo du temps coûterait aussi cher aujourd'hui, si pas plus, avec les dollars d'aujourd'hui. Donc, on n'est pas si avancé que ça encore du côté propulsion. Du côté, je vous dirais, côté informatique, on aurait besoin d'un ordinateur beaucoup plus petit, puis on n'aurait pas besoin de faire, en bon québécois, un reboot à toutes les 20 minutes dans le module Apollo pour dire qu'on remet un autre programme. Nos téléphones cellulaires ont plus d'intelligence que les ordinateurs qu'on avait à ce moment-là. Donc ça serait un avantage, mais le gros problème, c'est vraiment la propulsion, et c'est encore là qu'on a notre problème principal.
Aux nouvelles spatiales, monsieur Laplante, à défaut de trouver des petits bonhommes verts dans l'espace, on a trouvé un genre de bonhomme de neige.
Ben oui. J'ai trouvé ça intéressant de voir un peu le côté imagination des astronomes là, qui en ont fait un bonhomme de neige ou un petit bonhomme de Star Wars aussi. Là, je me rappelle pas du nom, là, mais c'est vraiment intéressant de voir ça. C'est vraiment deux corps célestes qu'on a mis ensemble. C'est Ultra et Thule c'est deux corps célestes qui sont joints et puis qui aujourd'hui qui gravitent un autour de, qui sont vraiment collés les deux ensemble. Et puis la sonde New Horizon a passé tout près d'eux le 1er janvier dernier. C'était le corps céleste le plus loin observé par un objet qui a été lancé de la Terre. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'on est capable de contrôler nos objets, nos vaisseaux si loin que ça. Et puis, on a encore du carburant à bord, donc on est en train de décider à savoir, OK, vers où on l'envoie maintenant, qu'est-ce qu'on va aller observer le plus loin encore. On fait un peu de découverte à savoir qu'est-ce qui se passe au fin fond de notre système solaire, quelles sont les ondes, les vents, les choses comme ça qu'on a là-haut. Donc, c'est vraiment intéressant de voir tous les développements et le contrôle qu'on a de ces objets qui sont si loin que ça.
Ultima Thule, c'est dans le système solaire encore?
Oui, on est encore dans le système solaire. On est moins loin encore que... faut dire que au début de la nouvelle, on disait que c'était l'objet envoyé le plus loin par l'homme, mais il faut dire que Voyager 1 est encore plus loin parce qu'on l'a lancé quand même pas mal plus longtemps avant. Là, il va quand même pas mal plus vite, mais c'est vraiment l'objet le plus loin observé dans lequel on a pu prendre des photos. On avait pris des photos de Pluton il y a quelques années, et puis là, maintenant, on est encore plus loin, et puis c'est de savoir qu'est-ce qu'on va avoir et capable de voir avant de sortir du système solaire et d'arriver vraiment dans l'espace intergalactique, si on veut dire ainsi. Là.
L'espace intergalactique, comment on le définit? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là. L'espace, c'est du vide, là, mais comment est-ce qu'on est capable de dire qu'il y a une frontière cosmique? Là? Est-ce qu'on est capable de dire?
Oui, il y a vraiment une frontière cosmique, puis il y a vraiment, comme je te dirais, un coussin. Là, c'est vraiment pas une ligne qui est tracée dans l'espace. Là, c'est vraiment une zone dans laquelle l'effet du soleil sur côté gravité, côté attraction, et puis là, on a vraiment plus de particules qui viennent de l'espace sidéral là, qui devient plus présent, donc on est capable de déterminer environ à partir de où on est. Voyager 1 devrait normalement être, s'il l'a pas déjà fait, sorti de notre système solaire présentement et d'être vraiment dans cette partie intergalactique-là. Donc il y a vraiment là, il y a beaucoup plus de détails de disponibles, mais vraiment un endroit, vraiment une zone dans laquelle on peut déterminer là, à quel moment on est vraiment sorti du système solaire.
Voyager 1, on est-tu capable d'entrer en contact encore avec?
Il y a encore un signal qui est envoyé à l'occasion. Il n'y a sûrement pas grand-chose qui nous est envoyé, mais il y a encore un signal qui est envoyé. On est capable de le tracer. On est capable aussi de le tracer avec des modèles informatiques, à savoir avec... Vous savez, c'est un mouvement qui est perpétuel, donc on sait avec la vitesse et puis tout ça à quel endroit on est rendu, mais à l'occasion, on a quand même un signal qui est envoyé, donc c'est intéressant d'avoir tout ça aussi.
Monsieur Laplante, merci d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir, puis on garde les deux pieds sur Terre, même si on regarde la Lune, ça, c'est intéressant.
On n'a pas le choix.
Puis on écoute Dark Side of the Moon en passant, oui.
Oui, c'est très bon, ça.
Ça rend les deux pieds sur Terre.
Merci, au revoir.
Ça rend les deux pieds sur Terre plus le fun d'écouter Dark Side of the Moon. Benoît Laplante est spécialiste en mission spatiale et nous parlait de cet alunissage, parce que c'est pas un atterrissage sur la Lune, un alunissage donc, de la Chine sur la face cachée de la Lune et de nos autres expéditions qui nous amènent vers l'infini et plus loin encore.